Marché aux puces, Pierre Grandjean.
Je suis venu dire adieu à un copain. Claude Nobs, 1. Ben, vous l'avez compris, il y aura 2, il y aura 3, il y aura 4. Ça pourrait aller d'ailleurs beaucoup, beaucoup plus loin, tant le sujet est intarissable. Alors, Claude Nobs, ben oui, c'était un copain depuis presque 50 ans. Et là, brusquement, peu de temps avant la fin de l'année, Vicky, qui était vraiment une fille formidable, qui est vraiment une fille formidable, qui restait très très près de Claude, téléphone pour dire, écoute, Claude est à l'hôpital, ça va pas fort, il est dans le coma. Je veux dire, attends, j'en reviens pas parce que une semaine avant Noël, Claude me téléphone, il me dit, coucou, je suis de retour. Ah oui, je sais pourquoi. Je lui avais porté des vieilles boîtes d'aiguilles pour 78 tours. Vous savez, c'est ces boîtes sur lesquelles il y a un chien qui coûte au parleur, des toutes petites boîtes, c'est très joli. Puis il me dit, ah, je te remercie, c'est sympa, si t'en as encore, n'oublie pas. Puis, des fois, on en trouve aux puces. Puis il me dit, il faut que tu montes au chalet. Je rentre d'une grande tournée, là, je suis passé chez moi, dans la maison. Et puis après, j'étais en Chine. Et puis après, j'étais au Japon. Et j'ai trouvé un microscope formidable pour les aiguilles 78 tours. Alors maintenant, c'est exactement si l'aiguille est bonne ou si elle va pas. Alors, on va pouvoir se faire des écoutes formidables. Écoute, je pars vite, juste après Noël, 2 jours à Berlin. Je rentre et je ne bouge plus du chalet. Je t'attends. Ben voilà, moi aussi j'attends. Et puis j'attendrai toujours, comme vous. C'est un sale coup, un copain qui passe. Enfin bref. J'aimerais d'abord vous dire que si j'avais vraiment envie de faire ce petit rendez-vous sur Voxinox, c'est parce que je me demande parfois si ma vie aurait été la même sans rencontrer Claude. Je ne crois pas. Tout simplement parce qu'il n'y aurait pas eu le festival, que grâce au festival, je me suis dit, tiens, je pourrais faire un peu le journaliste, et puis de Gazette de Lausanne, en Tribune de Lausanne, je suis passé un peu à l'écriture, différentes choses. Pendant tout ça ne serait jamais arrivé. Bon, on va pas refaire l'histoire. Alors, c'est pas non plus un hommage que j'ai envie de faire. C'est vous raconter le Claude que j'ai fréquenté, celui que j'ai connu, qui n'est peut-être pas toujours celui que vous avez connu, parce que c'était un homme public, très public d'ailleurs, il adorait ça. Et on s'est rencontrés, alors là, même lui, il ne se rappelle plus très bien si c'était en 64 ou 65, et éventuellement 66, mais plutôt 65, Memphis Slim, un joueur de blues, grand type baraqué, il faisait presque 1m90, beau mec d'ailleurs, qui avait une Bentley blanche. Il habitait à Paris, Memphis Slim, joueur de piano, chanteur, il avait écrit des tas de thèmes très très connus, repris par des groupes de rock. Vient faire un concert à la maison de la radio à Lausanne. Et l'organisateur de ces concerts s'appelait Willy Leiser. Je vous en redirai un petit peu plus après avoir entendu Memphis Slim. Juggin'. Memphis Slim. Qu'est-ce que c'était ça? Lost my boogie, j'ai perdu mon boogie. Oh, c'était un champion du boogie, en parenthèse. Il viendra plusieurs fois au festival de jazz de Montreux. Et Willy Leiser, l'organisateur de ce concert qui avait lieu au studio 1 de la Maison de la Radio à Lausanne, là où il y avait l'orchestre de chambre de Lausanne, à l'époque c'était M. de Sarzan qui dirigeait l'orchestre, vient faire un concert. Mais ce concert organisé par Willy, parce qu'il fallait alimenter un peu son émission de blues qu'il avait une fois par semaine. Et moi j'étais dans la régie et il vient, il me dit « Tiens, j'aimerais te présenter un gars qui est passionné de blues » et il me présente Claude Nobs. Puis après on ne s'est pas vraiment beaucoup revus, sauf que Claude l'a raconté partout. Ce concert lui a donné envie d'aller plus loin. Il a dit à Willy « Mais dans le fond, ça coûte combien d'organiser comme ça un concert avec un type qui joue le blues ?» Puis Willy lui dit « Oh là là, c'est cher, il faut au moins compter entre 200 et 300 francs suisses. » Puis Claude dit « Ah ouais, quand même. » Alors, bon, il en parle à ses copains de Montreux, et là, il s'est lancé dans l'organisation de concerts, surtout du blues au début, parce que c'était un passionné de blues. Et de fil en aiguille, ça va être un petit peu dans le désordre, cette évocation de Claude. Claude décide de faire un festival de jazz, je vous raconterai comment plus tard, et se retrouve face à l'éternel problème, qui c'est que je vais bien mettre à l'affiche ? Pendant 40-45 ans, c'était le problème de Claude. Est-ce que l'artiste que j'ai voulu avoir, est-ce que Leonard Cohen va pouvoir venir ? Ah, il va pas bien, boum, il faut le remplacer, par qui ? C'est toujours drôlement difficile, même s'il avait une grosse équipe, dont je vous reparlerai également. Des fois, on a des sueurs froides en tant qu'organisateur, on se dit, mince, c'est ma tête d'affiche, il est pas là, que faire ? Et alors, il s'affole pas trop. Et la première année, il me dit, il me faut une tête d'affiche, c'est bien joli de faire un festival. Qui ? Et à l'époque, il y avait un type qui cassait la baraque. C'était un peu 65, 66, 67, c'était le début du mouvement hippie en Californie. Fumer des joints longs comme ma main, enfin gros comme ma main, emporter des chemises à fleurs, puis des petits colliers, puis tout s'est poussé les cheveux, puis la vie était plutôt assez marrante. Et il se dit, la vedette, une des grandes vedettes, c'était un saxophoniste qui s'appelle Charles Lloyd. Il avait cassé la baraque une année avant en Antibes. Il remplissait les boîtes de rock aux États-Unis, le Fillmore et des trucs comme ça. Et il se dit, il me le faut. Il va le voir et lui dit, bon, j'aimerais vous avoir pour mon premier festival. Lloyd se marre un peu, lui dit, vous savez, j'ai un impresario. En principe, c'est à lui qu'on demande. Puis Claude va voir l'impresario, lui dit, oh là 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 là, bah, il faut compter au moins autant. Puis Claude dit, mais mince, je ne peux pas vous donner autant. Moi, je vous en offre la moitié. Et l'impresario, qui était un type bien, c'était George Avakian, se tourne vers Charles et dit « Qu'est-ce que t'en penses ?» Et Charles lui dit « Écoute, ce type me plaît, j'ai envie d'aller en Suisse, on y va. » Et c'est comme ça que Charles Lloyd a débarqué au Festival de Jazz de Montreux en juin 1967. Charles Lloyd. Il est revenu je ne sais pas combien de fois au festival de jazz. Il revient dans tous les festivals. C'est un type merveilleux. Entre parenthèses, la Suisse lui plaisait bien. Et à une époque, il s'est complètement retiré de la musique. Il en avait un peu marre. Et il s'est lié avec les Beach Boys, qui s'étaient également retirés de la musique. Et il est venu avec eux passer une année à Lézin pour faire de l'introspection, penser un petit peu. On était dans les mouvements bouddhistes et tout ça, ça y allait assez fort. Et Charles connaît très très bien la Suisse. Chaque fois qu'il venait m'arranger pour lui faire un petit cadeau, c'était des rebibs de l'Étiva. Il adorait ça. Il me disait, t'as pas oublié la bouteille ? On la boira après le concert. Type formidable, j'adore. Toujours dans le désordre. Donc on était au casino de Montreux, on en parlerait un peu plus tard. Ce casino, il brûle. Le soir d'un concert de Frank Zappa, en 1971, à la fin de l'année, un type lance une fusée. Il y avait des décors de bambou avec des toiles au plafond. La salle avait été un peu modernisée pour faire un peu moins nightclub et un peu plus salle de concert. Bref, le casino prend feu, puis c'était une vieille charpente. Le bâtiment était magnifique, il datait de l'époque 1900 comme ça, avec une jolie terrasse sur le lac où on servait le thé l'après-midi avec un pianiste. Bref, ça grille. En quelques dizaines de minutes, je me rappelle depuis le garage métro où je décrivais en direct dans le journal de la radio romande ce qui se passait à Montreux, tellement c'était incroyable ce truc qui brûlait. On voyait montrer ces torches de flammes qui sortaient par le toit qui avait explosé et cette charpente qui faisait une cheminée naturelle et qui brûlait avec. Personne n'y croyait. On était parti par les garages, personne n'a été blessé, heureusement. Et dans ces garages, il y avait du matériel d'un groupe qui avait l'intention de venir enregistrer, car il y avait déjà le studio Mountain Recording Studio dans le casino. Et ce groupe, c'était Deep Purple, qui va faire la chanson que vous connaissez par cœur, Smoke on the Water. voilà, il n'y a plus de casino, mais une belle chanson, Smoke on the Water. Et d'ailleurs, qui raconte exactement ce qui s'est passé pendant ce concert de Frank Zappa de décembre 71, si mes souvenirs sont bons. Concert qui, malheureusement, n'a pas été enregistré. C'est bien dommage. Moi, je vais vous parler un peu de ce casino, parce que c'était quand même une institution à Montreux. Le Courhouse, comme il disait, l'Office du Tourisme, c'était des acteurs importants de la vie montreusienne, un peu traditionnelle. On s'imagine tous ces Anglais qui venaient à l'hôtel, souvent avec une suite, une famille et une suite. Il y avait un valet, tout ça. Et on allait prendre le thé au casino. On jouait un petit peu, mais c'était très sage. Et le soir, il y avait quand même des attractions. Le directeur, à l'époque, s'appelait Monsieur Nini. C'était un type tout à fait formidable, qui était extrêmement aimable, qui voyait venir ce festival de jazz avec un bon œil, mais d'autres concerts aussi, parce qu'il y en avait déjà d'autres. Claude avait organisé Led Zeppelin, tout ça. Et il avait quand même un souci, c'est qu'il y avait une clientèle traditionnelle avec un bar. La scène, c'était un vaste rond qui se montait avec des vérins et qui faisait que ça sortait de la piste de danse d'environ 80 cm. C'était coupé en tranches avec des néons par-dessus, puis on pouvait les faire tourner. Alors on éclairait les dames qui se déshabillaient, qui attendaient très tranquillement au bar que le concert finisse pour pouvoir passer aux choses sérieuses. Ça, c'était le casino. C'est cette ambiance assez étonnante. Et dans ce casino, il fallait bien sûr remplir les salles. Et alors Claude a raconté 100 fois comment il a pris son bâton de pèlerin. Il s'est retrouvé à New York en train de rencontrer Nesui Ertegun, qui était quand même le grand patron d'Atlantique, et qui lui dit, Claude, j'aimerais bien avoir quelques-uns de vos artistes. L'autre lui dit, oh, ça ne va pas être si facile, mais je vais vous aider. On en parlera peut-être aussi comment cela s'est passé et comment cela se fait que brusquement, tout à fait dans la fin des années 60, on voit débarquer à Montreux celle qui était une immense vedette, qui l'est toujours, mais qui ne veut plus revenir parce qu'elle a la peur de prendre l'avion, c'est Aretha Franklin. Toujours dans le désordre, après Aretha Franklin, mais il faut peut-être quand même évoquer pourquoi ce festival de jazz. Claude Nobs, cuisinier, vous le savez, s'embêtait un petit peu, et il rencontre Raymond Jossy, directeur de l'Office du Tourisme, qui lui dit « j'ai besoin d'un comptable ». Claude aimait tout sauf les chiffres. Mais il lui dit, mais j'ai surtout besoin de quelqu'un qui m'anime un peu cette ville. Et un jour, Claude vient avec l'idée, si on faisait un festival de jazz, ça commençait, il y en avait un peu à gauche, à droite. Et à l'étranger, notamment le festival de Newport aux États-Unis, qui est un énorme machin. Et on devrait faire ça. Mais comment faire un festival ? Et à l'époque, la radio avait beaucoup d'importance. Nous sommes encore dans les années 60. C'était un média qui s'écoutait beaucoup. Et il va voir le chef des variétés. C'était Géo Woumar à Lausanne. Il lui dit, voilà, j'aimerais faire un festival de jazz. Géo, pianiste, musicien, artiste, lui dit, ah, moi, je vais vous aider. Cette histoire me plaît beaucoup. Voilà ce qu'on va faire. La mode est au concours. Il y avait un concours de jazz à Zurich, meilleur soliste, meilleur orchestre, meilleur vieux style, meilleur orchestre moderne, etc. Il y en avait partout en Europe. Il dit, on va faire un concours d'orchestre européen. On va demander à chaque organisme de radio en Europe de nous envoyer ce qu'il considère comme le meilleur représentant de la scène du jazz actuelle dans son pays. Et puis Claude Daud dit, ça c'est formidable. Ben oui, on va avoir 3 groupes par soirée. Ça ne nous coûte rien, parce que chaque radio paye les cachets. Nous, on les loge. Puis Claude dit, il n'y a pas de problème, l'Office du tourisme prend tout ça en charge. Et c'est ainsi qu'a démarré le festival de jazz de Montreux, avec le soutien d'un type formidable, qui est encore de ce monde. Et s'il nous écoute, j'aimerais bien lui faire un petit coucou, c'est René Langel, qui était un des rédacteurs en chef, ou même le rédacteur en chef, je ne me rappelle plus très bien exactement, de la Tribune de Lausanne à l'époque. Musicien lui-même, il était saxophoniste, et il dit, ah, alors ça c'est formidable, moi je vais m'occuper, je vais vous faire venir des journalistes du monde entier. Et il y avait encore un autre larron, Demetre Ioakimidis, un chercheur du CERN, passionné par les petites étoiles, mais aussi de jazz et de musique classique, et qui lui travaillait pour Jazzot. Et Jazzot était une revue très très connue à l'époque des amateurs de jazz, c'était là où écrivait notamment Boris Vian. Alors évidemment, ça a fait remuer, on a bien parlé de Montreux et ça a démarré. Et à ce premier festival vient un artiste, je vous ai parlé du premier affiche, Charles Lloyd. Malheureusement, il n'a pas été enregistré, donc le disque n'est jamais sorti. Ce qu'on a écouté est une bande, pas pirate, officielle de la radio, mais jamais éditée. Et vient un artiste qui s'appelle Bill Evans. Alors Bill Evans, c'était l'ancien pianiste de Miles Davis, c'était une des grandes figures historiques du jazz. Et Bill Evans débarque avec son trio. Et ce premier disque qui va sortir du festival de jazz de Montreux aura sur sa pochette la photo du château de Chillon. Et la photo, et c'est là que c'est formidable, a été prise par un type qui s'appelle Gene Lees, qui accompagnait Bill Evans. Et ce Gene Lees, eh ben, c'était un écrivain américain qui avait notamment traduit les chansons de la bossa nova, Corcovado, tout ça, les chansons de Tom Jobim, de John Gilberto, en version américaine. Et ce type était très très écouté et va faire le texte de la pochette, et ce disque va obtenir le Grammy Award aux États-Unis, c'est-à-dire meilleur disque de l'année. Je suis venu dire adieu à mon copain Claude Nobs, à votre copain, à notre ami Claude Nobs. On se retrouve prochainement avec un deuxième épisode.
Mmh.